Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, une thématique que j'ai intitulée « Adieu Trump, bonjour Joe Biden ». Bienvenue à toutes et à toutes sur Esprit Occitanie. Alors, il vous souvient peut-être qu'il y a quelques semaines, nous avions déjà évoqué les élections américaines, mais lorsque nous les avions évoquées, le vote n'avait pas encore eu lieu. Il avait peut-être démarré par correspondance, mais nous n'étions pas au bout de nos épreuves et de nos surprises. Et à cette époque-là, j'avais convié, pour en parler avec moi, j'avais convié trois de nos amis américains et résidents en Occitanie, qui sont membres tous les trois du Parti démocrate, dont le chair, Scott Stroud, j'espère que je le prononce bien, mais il me corrigera, John Dalbour et Judith Ware, avec qui j'avais déjà parlé avant l'élection d'Obama et sur une autre radio de ces élections américaines. Ils sont tous les trois, alors pas en présentiel, vous l'entendez certainement au son, ils sont tous les trois chez eux, on est tous réunis sur les fameuses Zoom, puisque nous travaillons beaucoup avec Zoom, et nous allons pendant une heure essayer de vous parler, et surtout eux, de vous raconter un peu comment ça se passe chez eux, quelles sont leurs craintes, leurs espoirs. Nous allons commencer par parler de Monsieur Trump qui va dans deux jours quitter la Maison-Blanche s'il ne part pas avant, et ensuite nous parlerons de Monsieur Biden et du long chemin, peut-être un peu chaotique, qu'il a devant lui, mais dont on est sûr on espère très fortement qu'il en viendra à bout. Voilà, donc bonsoir à tous les trois, merci d'être présents.
Et, bonsoir Jacques.
Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aussi à votre pays, les États-Unis, de qui on est toujours quand même très très proche, et puis des vœux de réussite pour celui qui, après-demain, prêtera serment, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris. Alors, première question que je voulais vous poser, Monsieur Trump s'en va, quel est son avenir politique? En a-t-il un? Et la procédure d'impeachment qui a été lancée, va-t-elle aboutir? Est-ce qu'elle a aussi quelque intérêt dans la situation actuelle? Est-ce qu'elle a été lancée de façon pertinente, à votre avis? Voilà, qui veut démarrer? Scott, peut-être?
Non, John.
Alors, John.
Merci, Scott. D'ailleurs, merci, Jacques. Merci à tous vos auditeurs. Je donne aussi les meilleurs voeux de la part du Parti démocrate à tous les habitants de l'Occitanie. Vous m'avez posé une très grande question là. Donc, je vais essayer de répondre de façon concise quand même. Trump va peut-être quitter lui-même physiquement la Maison-Blanche à midi, heure de Washington, ce mercredi. Mais les facteurs sociaux et économiques et politiques qui ont donné naissance au Trumpisme, au mouvement Trump, demeurent. Et peut-être le plus préoccupant, c'est qu'il y a des dizaines de millions d'Américains qui croient que c'est Trump qui a gagné l'élection et pas Biden.
C'est une grande surprise pour nous autres Français. Comment peut-on nier une réalité aussi évidente? Comment est-ce possible? Alors, ça nous étonne à nous, mais je crois qu'on ne va pas être étonné très longtemps parce que nous allons certainement très rapidement connaître le même phénomène qui se développe rapidement chez nous.
J'espère bien que non pour la France, mais ce n'est pas Napoléon qui disait que ce n'est pas ce qui est vrai qui compte, c'est ce que les gens croient être vrai.
Oui, je ne sais pas si c'est Napoléon, mais en tout cas, oui. C'est
quelque chose, ou peut-être Edouard Herriot, mais quelque chose de ce genre-là. Et... Il y a tout un écosystème de médias de masse là-bas, avec Fox News en tête, qui répète 24 heures sur 24 qu'il y a eu des cas de fraude de grande envergure, que les élections sont en doute, que l'État profond fraude. Et il y a des gens qui croient. Et donc, maintenant, c'est une donnée politique et sociale et économique à laquelle l'équipe Biden va d'abord faire face.
Alors, quand je parlais de l'héritage de Trump, mais je ne crois pas que j'en ai encore parlé, donc c'est le moment, quand je m'interrogeais sur ce qu'il allait laisser. Pour moi, il va laisser trois choses, mais vous allez me le dire. Quelques bombes à retardement, on reviendra dessus, une nouvelle façon de faire la politique et une ultra-droite agissante. Alors, cette nouvelle façon de faire la politique, c'est ce que vous évoquiez, John, c'est-à-dire la politique du mensonge, la politique, une politique violente, une politique de débordement verbaux qui est complètement à l'opposé de la réalité et d'une politique d'homme d'État, on va dire. C'est une politique de chef de parti comme Trump l'a été, mais d'un parti très particulier. Parti quasiment populiste, pour ne pas dire plus.
Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Scott tout de suite, mais je vais prendre le risque de donner une autre citation, cette fois-ci de Lénine, qui disait qu'il n'y a pas de crise politique sans crise économique. Et je pense que l'équipe Biden a compris cette vérité et que celle-ci va essayer de rapidement changer la donne économique et sociale aux États-Unis, surtout en jugulant le COVID et les conséquences économiques de la pandémie. Et donc, peut-être si on coupe l'herbe dans le dessus des jambes, des pieds du virus, on va drainer on va changer les facteurs sociaux et économiques qui ont donné naissance au mouvement Trump. Scott, à toi de prendre le relais, s'il te plaît.
Oui, ok. Bon, bonsoir tout le monde et bonne année à tous. Bon, on parle beaucoup de Trump, mais en fait, s'il n'avait pas gagné il y a 4 ans, quelqu'un d'autre, peut-être cette année ou dans 4 ans, quelqu'un d'autre comme Trump aurait gagné. C'est-à-dire que Trump n'a pas gagné tout seul. Le mouvement qui mène en ce moment, c'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Et si on regarde le Obama et ce qu'il nous a laissé, bon, Obama, il nous a parlé beaucoup d'espoir, il nous a parlé du changement. Donc, c'était quelqu'un qui amenait le changement. Et il y a une bonne partie des États-Unis, des Américains, qui n'ont pas aimé ce changement. Et quand Trump est arrivé en disant « Make America Great Again », ça veut dire revenir à comment c'était avant Obama. D'accord, donc l'idée d'avoir un président noir, c'était impensable, c'était insupportable pour plein de monde. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a pas mal d'Américains blancs, surtout des hommes blancs, peut-être plus âgés que la moyenne, et ils voient le changement qui arrive, ils voient le fait que dans 25 ans, il y aura plus d'hommes de couleur et de femmes de couleur que de personnes blanches. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Et et ce qu'on voit, c'est les gens sont un peu désespérés à comprendre ça. Donc, c'est là où nous en sommes. Et c'est vrai que Biden, il va avoir du mal à rassembler des personnes qui ne veulent pas être ensemble.
Ce que Scott, vous disiez que effectivement tout ça n'est pas nouveau. Est-ce que si je vous dis que c'est la droitisation du Parti républicain et que ça a commencé dans les années 70 et peut-être même dans les années 60, quand le président démocrate Lyndon Johnson a fait considérablement progresser les droits civiques. Est-ce que beaucoup de démocrates, d'ailleurs du Sud à cette époque-là, ont rejoint les républicains, là-dessus s'est ajouté le réganisme, la poussée des églises évangéliques dans le sud, et tout ça a provoqué une droitisation assez spectaculaire des républicains. Est-ce que c'est vrai pour vous?
C'est sûr que, bon, si on regarde le Parti démocrate avant Lyndon Johnson, c'est vrai qu'il y avait le Parti démocrate du Sud, ce qu'on appelle les Dixiecrats. C'est vrai qu'ils se sont trahis, ils se sentaient trahis par Lyndon Johnson et toutes les lois qu'il a fait passer pour les droits civiques des Noirs. Et c'est vrai qu'on a vu une transformation entre les hommes blancs qui votaient démocrate et puis qui sont basculés dans le Parti républicain. Oui, petit à petit, c'est un peu ça ce que vous dites, oui.
On a quand même vu avec l'apparition du Tea Party sous George Bush, et puis il y a eu également Sarah Palin lorsque McCain l'a choisi. Alors McCain, à l'époque, candidat opposé à Obama, et c'est Obama qui a gagné, il avait choisi Sarah Palin, qui était extrêmement, d'abord, elle n'était pas très brillante politiquement et techniquement, si on en croit ce qu'ont écrit beaucoup de gens, et puis c'était quand même quelqu'un d'extrêmement à droite, qui a commencé à habituer peut-être un peu, dans le paysage, les Américains, à ce que l'on ait le discours qu'a tenu Trump un peu après. Parce que Trump a surfé sur ce mouvement et ses idées, il n'a rien créé lui-même.
Bon, c'est vrai, il en a profité, tout à fait.
Peut-être Judith pourrait nous dire un mot, parce qu'on va dire qu'on ne laisse pas parler les femmes, vous savez.
Bonsoir, bonne année aussi. C'est vrai que tu me rappelles que tu m'avais invitée il y a 4 ans exactement.
Mais oui.
On parlait du choc de l'arrivée de Donald Trump parce qu'on n'imaginait pas gagner. On pensait que Hillary Clinton allait passer. Et quand tu m'as interviewé, j'étais vraiment dans le choc. Mais je crois que j'ai exprimé, bon, on va voir. Peut-être que il va pas être aussi mauvais que ce qu'on craint. Eh bien, en fait, non. Il a été pire qu'on a pu imaginer. Donc, M. Trump, qui aime bien parler en superlatif, moi, en tant que prof d'anglais, j'ai même fait des leçons sur le superlatif en utilisant ses discours. On peut dire aujourd'hui que c'est le pire président que les États-Unis a jamais eu. Espérons que ça reste le pire président. Tu as demandé qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il a un avenir politique ou homme d'affaires ou personnalité à la télé ou à la radio? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il peut nous surprendre encore parce que c'est quand même quelqu'un qui a le don de rebondir et de changer de forme, un peu comme un morphe, il se transforme, il refait surface. Pour l'instant, je crois que pour mercredi, donc il a bien exprimé qu'il ne serait pas à la cérémonie d'investiture. Joe Biden a répondu que c'est la première fois qu'ils sont d'accord pour quelque chose, donc c'est pas plus mal. Par contre, il y a des gens qui craignent que Donald Trump fait une autre sorte de cérémonie de partir, une cérémonie des adieux ou de quitter la Maison Blanche avec. On ne sait pas ce qui peut se passer. Espérons que c'est pas grave. Son nom Trump, c'est quand même une marque qui est en faillite en ce moment. Donc, on retire son nom de beaucoup de contrats. Même il y a des bâtiments à Washington qui enlèvent le nom Trump. Ça doit être compliqué pour lui. En ce moment, je dirais que c'est comme un peu comme le Titanic en train de couler. Et on verra l'épave qu'on va retrouver à la fin pour Donald Trump.
On va voir si le capitaine coule avec cette fois-ci.
En principe, il doit rester sur le bateau qui sombre. Donc, il va nous laisser au moins 3 choses, enfin, il va laisser à l'Amérique 3 choses, des Trumpistes radicalisés, parce que Trump aura peut-être disparu, mais ses soutiens on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas nés d'hier et avec lui vont demeurer. Il nous laissera une façon de faire de la politique assez particulière avec des fake news, avec cette violence, avec cette agressivité. Et puis peut-être que sa façon de faire la politique, et vous allez me le dire, a provoqué le discrédit des hommes politiques ou de la politique, plus globalement. Non, Scott ?
C'est difficile à dire. Moi, je crois que aux États-Unis, on regarde les élections précédentes, il y a toujours eu beaucoup de monde qui ne venait pas voter. Le taux d'abstention dans les élections américaines, c'est toujours assez impressionnant. Et cette année, en 2020, on a vu plein de monde qui se sont précipités aux urnes.
67% quand même, hein, 67%, et d'habitude, c'est à peu près dans les… Je regardais les chiffres, 55%, à part Obama qui avait fait monter la barre à 58%. Mais là, 67%.
Oui, donc ce qui veut dire que il y avait certaines personnes qui ont voté parce qu'ils étaient un peu paniqués à l'idée d'avoir un autre 4 ans de Trump. Mais aussi, Trump, il a compris qu'il n'allait pas recevoir, bien entendu, les votes des Noirs, pas trop des Hispaniques. Donc, sa façon de faire, c'était d'aller chercher les hommes blancs qui n'ont jamais voté et vraiment de faire agrandir un peu ce qu'on appelle sa base. Oui, voilà. Donc,
il y a autre chose qui est peut-être inquiétant, mais vous maîtrisez beaucoup mieux, par définition, le système judiciaire américain que moi. Trump a nommé beaucoup de juges conservateurs, et il en a nommé à la Cour suprême, bien sûr, on va y revenir, il en a nommé aussi à peu près dans toutes les cours, et ça va rester très longtemps. Notamment les juges de la Cour suprême, alors qu'ils ont eu quand même la sagesse, parce qu'ils sont juristes, j'imagine, de ne pas suivre Trump dans ses folies, puisqu'il l'avait quand même escompté. J'avais noté une remarque de Franklin Roosevelt, qui n'est pas neuve. Le drame avec les juges de la Cour suprême est qu'ils démissionnent rarement et ne meurent jamais. Je pense que c'est vrai, mais est-ce que cela ne va pas être un boulet que va traîner l'Amérique très longtemps ?
John, si je peux exprimer mon avis, je dirais absolument. Et d'ailleurs, c'est le prix que il y a des dirigeants très respectables du Parti républicain qui étaient prêts à encaisser tous les mauvais coups de Trump parce qu'il réussissait à placer des juges dans les cours fédérales et à la Cour suprême. Donc c'est peut-être l'acte de Trump qui va durer le plus longtemps, qui va avoir le plus de conséquences. Je voulais ajouter quelque chose d'ailleurs à propos des bases sociales et économiques de Trumpisme qui me donne qui me rend un peu optimiste. Il y a des sociologues et des politologues qui ont trouvé que sous le président Clinton et Obama, le Parti démocrate avait un peu perdu contact avec ses bases traditionnelles, comme les syndicats, comme les gens, les votants de la classe ouvrière, les cols bleus. Et bien sûr, c'est Trump et le Parti républicain qui ont récupéré ce fonds de commerce. Avec Biden maintenant, on a un président démocrate qui sait comment parler à ces gens-là et sait comment gagner leur voix. Et je pense qu'on va peut-être grignoter sur les bases électorales républicaines dans les élections à venir.
Alors, avant d'en venir au nouveau président, une dernière question, c'est cette procédure qui a été lancée par Nancy Pelosi, qui a l'air d'être une femme d'acier, hein, qui ne lâche rien. Cette procédure d'impeachment, est-ce que ça vous semble opportun de l'avoir lancée maintenant? si elle aboutissait, j'imagine que ça interdirait à Trump de se représenter à la présidence. Je ne sais pas s'il en sera capable dans 4 ans. Mais est-ce que ça vous semble être opportun de l'avoir lancé, cet impeachment?
Oh oui.
Scott?
Oui, 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 bien sûr.
Quel est l'intérêt d'avoir lancé cette procédure aujourd'hui?
Parce que c'est un point d'honneur. Parce que ce qu'il a fait, si on ne peut pas lancer une procédure d'impeachment pour ce qu'il a provoqué à Washington le 6 janvier, alors ce n'est pas la peine d'avoir une procédure d'impeachment. Et puis, c'est aussi pour l'histoire, quelque part. C'est le seul président d'avoir 2 procédures d'impeachment contre lui. Et c'est important aussi, on peut commencer la procédure maintenant, on peut continuer après le 20 janvier au Sénat, et dans un Sénat où peut-être ça, où en fait ça passera, on ne le sait pas encore. Il y aura toujours des républicains qui ne vont pas voter pour l'impeachment, mais il y a certains sénateurs, sénatrices qui sont horrifiés de constater ce qui s'est passé. Et non, il le faut. Par principe, et il le faut parce qu'on ne veut pas que cet homme ait la possibilité de repasser à faire campagne politique.
Je suis pleinement d'accord. Pardon, Judith, à vous.
Non, vas-y.
J'allais dire, je suis pleinement d'accord avec Scott. D'après l'évidence, que les témoignages, les preuves que j'ai vues jusqu'à présent, le président Trump a essayé de... Il a incité une émeute contre le Congrès. Donc, il a essayé de stopper le fonctionnement du Congrès pour rester au pouvoir. Nul homme aux États-Unis n'est en dessous des lois et comme Scott a dit, ces actes méritent l'impeachment et la sanction suprême du Congrès.
Je dirais juste exactement, il ne faut pas ignorer la gravité de ce qui s'est passé. Déjà, il y a des républicains qui comparent ça à Black Lives Matter ou d'autres événements. Il n'y a rien qui se compare à ça. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Un président qui incite les gens à occuper la place du gouvernement, et 5 personnes sont mortes. Et heureusement qu'ils ont pu sortir les législateurs. Attends, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Et l'attitude de Trump envers Pence, qui heureusement n'a pas penché dans son sens, c'est inadmissible, c'est grave. Et il faut absolument marquer le point par l'impeachment. C'est vrai, comme Scott a dit, que le House donc, a voté. Je crois que j'ai les chiffres. Donc, il y a 10 républicains qui ont voté pour l'impeachment et 197 qui n'ont pas voté pour l'impeachment. Donc, c'est passé de cette façon. Quand le Sénat va reprendre le 19, je crois, janvier ou le 20 janvier, j'ai entendu que Biden va peut-être pas, ils vont pas forcément s'y lancer tout de suite parce que il y a beaucoup de choses très importantes à faire pour le COVID, pour d'autres problèmes. Mais comme Scott a dit, il y a de fortes chances quand même que cette fois-ci l'impeachment se fasse dans les deux maisons. Qu'est-ce qu'on dit? Dans les deux chambres.
L'impeachment n'est pas une destitution puisqu'il n'est plus président, donc à quoi peut-il mener cet impeachment? Quelle va être la sanction qui peut être prononcée par le Congrès? Et je crois qu'il faut aussi, mais vous allez me le préciser, une majorité qualifiée pour le vote.
Les deux tiers des sénateurs présents.
Voilà, donc il faut les 2/3, et si on aboutissait à un impeachment postérieurement à son départ de la Maison-Blanche, quelle pourrait être la sanction?
Il ne pourrait plus se représenter.
D'accord, c'est la seule
sanction. Pour quelque fonction que ce soit.
D'accord. Bon, écoutez, affaire à suivre. Donc, je vous propose de parler, on a parlé de Trump, de ce qu'il nous laisse Parlons maintenant de M. Biden qui va prêter serment mercredi. Première question, on sait tous que pendant 8 ans, donc 2 fois 2 mandats de 4 ans, Monsieur Biden a été le vice-président d'Obama, donc la question qui vient tout naturellement à l'esprit, est-ce que Joe Biden va faire de l'Obama ou est-ce qu'il a une véritable politique qui va se différencier de celle de son ancien président? Scott?
John.
C'est John. Alors, Scott, John commence toujours.
Mais, bon, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Il n'y aura pas un deuxième Obama.
Non, pourquoi?
Obama est unique. Je pense que les fonctions et les challenges qui devant le pays maintenant sont différents qu'il y a 4 ans ou qu'il y a 8 ans.
Ça veut dire que le pays a changé.
Mais surtout les challenges ont changé. Je pense que le COVID, l'épidémie, la pandémie, les conséquences de la pandémie, et vraiment l'apaisement du climat politique et social sont des enjeux majeurs. Et je trouve que Biden est hautement qualifié pour affronter ces deux challenges.
Pour l'instant, donc pour vous, il n'y aura pas de nouvel Obama, tout simplement parce qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances, ce qui ne l'empêchera peut-être pas d'appliquer les mêmes recettes que celles de Barack Obama.
Mais il a déjà annoncé un programme très ambitieux sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Et c'est vrai qu'il y a des, par exemple, sur le plan santé, il y a des prolongations des décisions prises sur Obama. Mais d'autres domaines, les défis sont différents, par exemple face à la Chine.
Oui, alors on va y venir tout à l'heure sur la politique.
Face à la Chine. Et aussi, je pense qu'il faut... je pense qu'il va ratisser très large Obama, excusez-moi, Biden, en forgeant une coalition au pouvoir. On le discerne déjà par le choix qu'il a fait dans son cabinet et aussi dans les programmes qu'il a annoncés pour l'économie, pour la santé, etc. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait certains républicains qui s'associent à lui.
Oui, notamment peut-être Monsieur Mitch McConnell. Ce qui est intéressant là, c'est que on se souvient que Biden et McConnell, ils ont travaillé ensemble au Sénat pendant des décennies. Et en fait, je ne sais pas si Biden a beaucoup de respect pour McConnell maintenant, avec tout ce qu'il a fait pendant 4 ans, mais je crois que le contraire, c'est vrai, que McConnell peut travailler avec Biden, et peut-être qu'il va être obligé maintenant qu'il n'a plus la majorité au Sénat. Donc c'est possible sur le plan politique, peut-être Biden, et il a plus d'avantages qu'Obama. Et sans vouloir être très méchant, le premier avantage, c'est qu'il n'est pas noir.
N'allez pas le dire comme ça. Mais,
je suis désolée de le dire comme
c'est
ça.
C'est vrai que ce n'est pas la même personnalité, ce n'est pas les mêmes challenges, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas les mêmes défis, et ce n'est pas la même sorte d'homme. Et Obama était un très jeune sénateur, une sorte de vedette, une étoile qui montait très vite. Joe Biden, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans d'expérience, qui travaille dans le Sénat depuis longtemps, qui a des relations solides de travail des deux côtés, avec les démocrates et les républicains. Donc, il est peut-être l'homme qu'il faut en ce moment pour recréer un lien, pour faire un pont, pour essayer de rejoindre les deux partis qui sont très polarisés actuellement.
Et je trouve que Biden aussi, le style des deux hommes n'est pas du tout le même. Biden est beaucoup plus chaleureux, il est beaucoup plus terre à terre. Je trouve qu'il a le contact plus facile avec les ouvriers des usines. il n'a pas fait des grandes études dans les universités de Harvard ou de Yale. Et je pense que tout cela maintenant est à son avantage.
Est-ce qu'il aura le temps, parce qu'on peut dire que M. Trump a considérablement abîmé l'Amérique, sans parler du reste du monde. M. Biden, qui a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un deuxième mandat, n'a que 4 ans pour agir. Est-ce que ce n'est pas un peu court? Scott?
On peut faire pas mal de choses en 4 ans, mais c'est sûr que on met notre espoir un peu aussi dans le vice-président. Donc c'est vrai que on sait qu'il sera président que 4 ans et qu'il faut construire des relations qui vont au-delà. Mais c'est vrai que 4 ans, c'est pas loin. Enfin, c'est pas long. Alors, bon, avec Trump, 4 ans, c'était une éternité, mais on peut. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que on peut détruire beaucoup de choses en 4 ans. On regarde ce que Trump a détruit. Il a détruit énormément. Mais construire, c'est sûr que c'est plus long. C'est plus long.
Est-ce que vous pensez que Kamala Harris, et ça, c'est uniquement les électeurs qui en décideront, mais est-ce que vous pensez qu'elle sera en capacité de prendre la suite? Est-ce qu'elle est sur une rampe de lancement aujourd'hui?
Elle est noire. C'est une femme très compétente. C'est
une femme extraordinaire. Si je comprends ce qu'a dit Scott tout à l'heure, elle a un désavantage, elle est noire.
Et femme.
Et femme, ça fait beaucoup, hein, quand même.
Mais c'est quand même quelqu'un de... J'ai l'impression qu'elle est vraiment quelqu'un de très solide, très forte, très intelligente, compétente. Elle parle très bien, elle se présente très bien.
Il y a eu un beau portrait d'elle sur Arte, je crois qu'il est encore visible sur Arte. Si vous ne l'avez pas vu, allez vite le voir, parce qu'il la présente d'une façon extrêmement séduisante, effectivement, oui. Alors, quel va être... M. Biden va arriver donc aux manettes mercredi, il a déjà prévu son plan d'action. Sa première préoccupation, c'est celle de tous les pays aujourd'hui, dont le nôtre, c'est le traitement du Covid. Qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Qu'est-ce qu'il a prévu?
Il a dit qu'il fera vacciner 100 millions de personnes dans les 100 premiers jours.
Il sera bien meilleur que nous, alors, parce que nous en avons vacciné des dizaines de milliers, parce qu'on vient de s'apercevoir juste que les vaccins venaient d'arriver. Les Français ne sont pas vraiment prévoyants. Vous pensez qu'il va y parvenir? Est-ce qu'on est anti-vaccin aux États-Unis?
Ah, il y a des gens qui sont anti-vaccin.
Donc la solution pour Joe Biden, c'est le vaccin aujourd'hui.
Mais en plus il a promis un chèque de 2 000 $ pour chaque Américain. Et de l'aide pour les petites et moyennes entreprises. Et dans le climat actuel, j'ai l'impression qu'il suffirait de montrer que le gouvernement est capable d'agir dans l'intérêt de la majorité des citoyens pour marquer des points avec les Américains.
Comment va-t-il pouvoir, et Judith l'a évoqué un peu tout à l'heure, comment va-t-il pouvoir rassembler ce qui est épars, c'est-à-dire on a un pays qui est profondément divisé, 70 millions ont voté pour Monsieur Trump quand même, ce qui n'est pas rien. Alors dans les 70 millions, il n'y a certainement pas autant d'agités du tabac de ceux que nous avons vus l'autre jour au Capitole, mais quand même, comment va-t-il combler ce fossé qui s'est creusé entre les deux pays?
Je pense que ça va être très très compliqué. Parce que de nos jours, les Américains sont tellement dans deux camps qui se haïssent, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de terrain d'entente. Ce n'est même plus des idées politiques qui divisent les gens, mais c'est toute une identité à laquelle les gens adhèrent qui fait qu'ils sont soit républicains, soit démocrates. Avec les mauvaises informations qui passent, les gens n'entendent pas de tous côtés. Donc mais peut-être à Washington, dans le travail de Washington, il va arriver à créer des liens. Après, l'opinion publique, c'est difficile.
Tu parles de division, Judith. Est-ce que ça se ressent au quotidien? Est-ce que si mon voisin est trumpiste, par exemple, je ne vais plus lui parler ou on va se...
Ah oui, tout à fait. Oui, non, tout à fait. Les Américains n'ont jamais eu autant de problèmes à s'entendre avec l'autre côté. Les gens perdent leur amitié. Moi, par exemple, on peut parler de Facebook. J'ai des amis, je connais depuis la CP. On s'est quitté sur Facebook, on a dit c'est fini. et même à l'intérieur des familles, il y a beaucoup d'animosité qui est difficile à savoir ce qu'il faut faire. Et la quantité de mauvaises informations qui est disponible fait que les gens ne savent même plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Non, je trouve que c'est inquiétant. De ce côté-là, c'est inquiétant. Je ne sais pas si Scott ou John ont une autre idée.
Bon, si. J'ai des membres... j'ai des membres de ma famille qui ont voté pour Trump et qui ont même voté pour Trump la deuxième fois. C'est désolant. Donc, c'est sûr que, en famille, on sait que... moi, je ne peux pas convaincre... Donc, je sais même pas. Au nom de la famille et un minimum de civilité, on n'en parle pas. Donc, dans d'autres familles où les gens sont un peu plus... ça ne passe pas, ils ne se parlent plus. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant aux États-Unis de cette idée d'identité. Donc, ça fait des années, on parle de l'identité des hommes noirs, des noirs ou des hispaniques ou des asiatiques. Et c'est, je crois que c'est nouveau maintenant, cette idée de l'identité des blancs. Parce que pendant toute l'histoire des États-Unis, si on était blanc, on avait une situation de privilège, même si on était pauvre, et c'était mieux d'être blanc et mieux considéré que d'être noir. Et maintenant, il y a des personnes qui sont inquiets. La pandémie n'arrange rien. Donc l'économie, ça n'arrange rien du tout. Donc quand on a des choses à perdre, on a son boulot à perdre, son statut social à perdre, maintenant, on arrive à un stade aux États-Unis où chaque groupe a peur de son avenir. Ils sont inquiets. Et dans une situation comme ça, c'est inquiétant de tous les points de vue.
Il y a quand même quelque chose qui est resté extrêmement ferme, extrêmement solide aux États-Unis dans la tourmente Trump et surtout vers la fin, ce sont les institutions qui ont toujours merveilleusement bien fonctionné, qui ont été un frein au dérapage de Trump. Et là-dessus, vous avez un système extrêmement solide. C'est quand même déjà un bon début pour rebâtir, me semble-t-il. John ?
Jacques, c'est vrai que les institutions ont tenu bon jusqu'à présent, mais je n'ai pas l'impression qu'elles aient fonctionné dans la façon que les fondateurs auraient souhaité. Le Sénat, par exemple, était censé être une chambre indépendante des partis, mais les Républicains ont fonctionné comme des alliés sans faille du président Trump. Même lorsqu'il était évident qu'il était de mèche avec le Kremlin ou qu'il s'était engagé dans les élections au niveau des États, les sénateurs républicains étaient prêts à le soutenir.
Est-ce que
grosso modo, d'ailleurs, aujourd'hui est le jour d'anniversaire de Montesquieu.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai.
Il fait des lois.
Je sais qu'il n'était pas Toulousain, mais presque.
Oui, presque.
Et cette division de pouvoir, il est vrai, a fonctionné tant bien que mal jusqu'à présent. Mais je ne sais pas si on continue avec une société civile divisée, avec des dizaines de millions de gens qui croient dans les bobards. Je ne sais pas si tôt ou tard, les institutions ne seraient pas, ne vont pas céder.
Est-ce que le système électoral, qui était quand même extrêmement compliqué, est adapté à la réalité d'aujourd'hui? Parce qu'on a quand même bien vu que finalement, on ne fait campagne que dans quelques États clés ouais. qui vont faire basculer éventuellement le vote. Et puis, on se rend compte que, par exemple, Madame Clinton avait eu plus de voix que M. Trump, mais elle n'a pas été élue. Ouais. On sait que quand on est à l'intérieur des États-Unis, on vote plus républicain. Quand on est sur la côte ou dans les grandes villes, on va voter plus démocrate. Mais comme le poids des États ne reflète pas la population, est-ce que ce n'est pas un problème, ça, aujourd'hui?
C'est la vieille histoire de la différence entre le pays légal et le pays réel, n'est-ce pas? Pour reprendre la formule maurassienne. Et c'est programmé dans notre constitution et je pense qu'il serait impossible de le changer ou très lourd. Ce serait très lourd de changer parce qu'il faut, si je ne m'abuse pas, que trois quarts des États soient d'accord pour changer la constitution.
C'est vrai qu'on ne va certainement pas réussir à éliminer le processus du collège électoral.
Donc, le collège électoral est là.
Par contre, il y a deux États parmi les 50 qui divisent les voix de façon proportionnelle. Et plusieurs, tous les États pourraient finalement décider de faire de cette façon.
Judith a complètement raison. Ça, c'est éminemment faisable.
Oui, donc là, il y a peut-être une voie de réflexion. Alors, si on vient au programme de la politique intérieure de M. Biden, il y a plusieurs sujets que l'on pourrait citer. L'égalité sociale, la législation sur les armes qui, vue d'Europe, pour nous est quelque chose d'assez stupéfiant. Je pense qu'il y a aussi de grands travaux d'infrastructures à faire, et beaucoup d'infrastructures qui ont souffert aux États-Unis. On a également parlé de la réindustrialisation, autrement dit de ramener des industries qui étaient allées s'investir ailleurs, et notamment dans les pays d'Asie. Alors, qu'est-ce que va faire M. Biden sur tous ces sujets?
Qui sait qui Biden dit build back better. Back better, c'est reconstruire mieux. C'est son slogan. Et c'est sûr qu'il a un programme pour améliorer beaucoup de choses dans l'infrastructure, de créer des emplois, de favoriser les syndicats, d'élargir la classe moyenne, de faire des travaux de réseau, d'aéroports, de routes. Les choses que Donald Trump avait remarquées aussi avaient besoin d'être faites à l'époque et qui n'ont pas été faites.
Est-ce qu'il va avoir la possibilité financière de le faire si le soutien des entreprises, le soutien apporté aux entreprises et aux Américains en raison du Covid, est-ce que ça ne va pas assécher complètement les possibilités de financement?
Peut-être pas. Mais parce que bon, maintenant, on arrive à un stade où on ne compte plus l'argent qu'on dépense. C'est un peu effrayant, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'on en trouve partout. Avant, on trouvait ça nulle part. Et puis maintenant, dès qu'on a besoin de quelques dizaines ou centaines de milliards, ce n'est pas un problème. La planche à billets fonctionne.
C'est assez effarant. Mais bon, comme Biden dit, si on ne dépense pas cet argent maintenant... Le navire va s'écouler, donc on fait ce qu'il faut. Et puis, bon, c'est vrai que côté infrastructure, il y a énormément de travaux à faire. Et normalement, bon, les démocrates sont pour. Il y aura peut-être bon nombre de républicains qui sont pour si les travaux se trouvent dans leurs États à eux. Donc, chaque fois qu'il s'agit de faire avancer la machine dans son propre état, les républicains, il va dire oui. C'est incroyable. Prenons les sénateurs d'Alaska. L'argent que reçoit l'Alaska, c'est énorme, énorme. Et puis, en même temps, ce sont des sénateurs républicains. Mais bon, ailleurs, ils vont prêcher que, ah non, il ne faut pas, il faut... Le budget, c'est important. Tout dépend.
Mais c'est un possible terrain d'étente.
Oui.
N'est-ce pas, Scott?
Oui.
Là, les marchandages sont possibles. Donc, des accords, des compromis.
On n'a pas parlé d'un monsieur qui a permis certainement à M. Biden d'être élu. C'est Bernie Sanders qui, pour le moment, ne se montre pas sur le devant de la scène. Je crois que le Covid occupe toutes les têtes et ce n'est peut-être pas le moment et ce ne serait pas opportun. Mais il va bien falloir qu'à un moment, M. Biden et M. Sanders se parlent, non?
Si je ne me trompe pas, il va présider la commission des finances au Sénat, n'est-ce pas?
Oui.
Oui. Donc, il va occuper un poste clé là, pour les, quand il s'agit de débourser l'argent fédéral.
Oui, en fait, je crois que Biden lui aurait donné à Sanders un poste au cabinet, mais sauf qu'il ne peut pas parce que ça veut dire qu'il y a un siège de moins au Sénat et il faut garder Bernie là où il est. Non, ils s'entendent. Bon, je crois qu'ils travaillent assez bien ensemble. Hein.
L'Obamacare qui avait été un peu mise à mal par Trump, est-ce que M. Biden va le remettre en selle? Est-ce qu'il va le développer? Est-ce qu'il va l'étendre? Scott?
D'après ce que je comprends, oui. Je n'ai pas les détails dessus, mais c'est, il faut le revoir. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu aujourd'hui, mais il faut l'améliorer, mais il faut le garder.
La législation.
Biden, il a dit que, bon, et Sanders aussi, que c'est certainement pas maintenant, pendant une pandémie, qu'il faut détruire l'Obamacare.
Si on vient à la politique extérieure, on sait que depuis Obama, mais peut-être un peu avant, les États-Unis se sont tournés vers l'Asie. Alors, ce n'est pas une théorie très nouvelle. Pour reciter un Roosevelt, c'était Theodore Roosevelt en 1906. Il avait écrit « Ma conviction est que l'avenir des États-Unis sera déterminé par ce qui se passe en Asie et ne le sera pas vers l'Atlantique ». Donc, voilà, c'est une formule qui aujourd'hui a trouvé son application. Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de la Chine? Parce que la Chine est quand même elle a bien profité de l'absence des États-Unis dans un certain nombre d'institutions internationales. Elle a profité de ce que Monsieur Trump ne savait pas du tout comment se positionner en politique intérieure. Il y a surtout l'ASEAN, qui est ce fameux accord commercial qui a été étendu par la Chine aujourd'hui. Il y a les seuls qui n'y sont pas, c'est l'Inde, qui a eu un peu peur du grand voisin chinois. Comment les États-Unis vont pouvoir se remettre en selle sur cette question particulière? Première question. Et deuxième question, quelle va être la politique de M. Biden vis-à-vis de la Chine? On a connu celle de M. Trump avec beaucoup de fermeté et d'hostilité, des déclarations tonitruantes comme le personnage le faisait couramment. Qu'est-ce que va faire M. Biden?
Je crois que M. Biden va être obligé de rester ferme, peut-être pas hostile. Il va suivre un protocole, il va être beaucoup plus diplomate, ces choses dire. Mais il faut rester ferme, et peut-être plus ferme que Trump dans une certaine mesure, puisque côté militaire, les Chinois, ils se sont bien préparés pour élargir leur soft power et puis tout le reste aussi. Et donc, je crois que Biden est très conscient de ça. Et en fait, Biden ne peut pas être gentil avec la Chine puisque la Chine a pris une telle place dans le monde qu'il faut peut-être, j'imagine que les conseillers de Biden vont lui dire qu'il faut essayer de le contenir, la Chine. Et puis déjà, peut-être comme ici, comme en Europe, on va être obligé de rapatrier certaines usines justement pour faire travailler les Américains. Et on ne peut plus fonctionner, on voit ça bien avec la pandémie, on ne peut plus fonctionner comme avant. La globalisation, ça n'a pas bien fonctionné pendant la crise actuelle.
Alors, c'est vrai que M. Biden va regarder. Alors, M. Biden, il faut le dire, il s'est quand même beaucoup occupé de politique extérieure, toujours, et notamment auprès de M. Obama. Donc, il, lui, par contre, a une culture des relations extérieures. Il a également une famille d'origine européenne. Est-ce qu'il va regarder un peu plus vers l'Europe que ne l'ont fait ses prédécesseurs?
Je pense qu'il va y avoir un changement radical et immédiat dans les relations américaines avec l'Europe. Jacques, vous avez évoqué le passé de Biden, l'expérience de Biden en matière de relations étrangères. Il a présidé la commission au Sénat des relations étrangères avant de devenir le vice-président. Vous le savez peut-être qu'il a... Il a annoncé son intention de convoquer une réunion, un sommet des pays démocratiques, peut-être par Zoom ou virtuellement et pas, pas face à face, pour, y compris bien sûr la France, pour que les pays, les alliés, les amis traditionnels, les États-Unis, prennent des décisions communes face aux challenges actuels, la montée des dictatures, les fake news, la pandémie, etc. Mais je suis sûr que dès son adresse d'investiture, il donnera des mots rassurants aux Européens et à nos alliés traditionnels que l'Amérique tel qu'il avait connu et de retour.
Vous croyez, John, qu'on reverra l'Amérique que l'on a connue ou que l'on a aimée? Est-ce que on parlait tout à l'heure dans les défis, on disait qu'il ne fera pas de l'Obama puisque les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Elles ont quand même bien changé. Aujourd'hui, la vieille Europe est un peu, entre guillemets, larguée face à ce qui se passe dans le monde. Et donc, oui. Les États-Unis vont quand même toujours regarder vers l'Asie parce que ce sont là qu'il y a les marchés émergents, ce sont là que l'avenir peut-être du monde, au moins dans les 50 prochaines années, peut se jouer.
Je sais que la donne géopolitique a quelque peu changé, même changé dramatiquement. Mais je pense que les crises qu'on a vécues depuis la première guerre du Golfe ou la fin de l'Union soviétique ont montré que les liens entre l'Europe et les États-Unis sont très solides et que ceci fonctionne très bien en cas de crise.
La présence de M. Trump pour les Européens n'a pas été finalement totalement négative en ce qu'elle les a obligés à se prendre un peu en main, à se responsabiliser, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là.
Oui, mais n'oublions pas que la décision d'augmenter les dépenses ou la promesse émise par les Européens, faite par les Européens d'augmenter les dépenses en matière de défense prédate l'avènement de Trump à la Maison-Blanche. Elle avait été prise au sommet de l'OTAN au Pays des Galles, en 2014, je crois.
Oui, ça les a obligés à accélérer un peu, ce qui n'était pas forcément
de dépenser, jusqu'à 2% de leur PNB pour la défense. Donc, le mouvement avait été entamé déjà. Mais c'est vrai que l'arrivée de Trump a accéléré le processus. Ça, c'est indéniable, d'après moi.
Autre dossier qui a toujours été chaud, dont on parle un peu moins maintenant, c'est le Moyen-Orient, où les Américains se sont toujours beaucoup investis pour essayer de rapprocher des positions irréconciliables. Quelle va être la position de M. Biden vis-à-vis d'Israël aujourd'hui, qui jusque-là était avec Netanyahou et Trump, ça fonctionnait très bien le couple. Demain, ça ne va peut-être pas tout à fait être la même chose. Est-ce que quelqu'un de vous trois a une idée sur la position de M. Biden vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de ce conflit?
Ça va être un peu délicat pour Joe Biden, je crois. Bon, déjà, il n'aura pas les mêmes relations que Trump avec Netanyahu. Je crois que pour Biden, le chef d'État d'Israël, il est déjà un peu compromis dans des affaires un peu douteuses, etc. Mais il peut pas, Biden ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas dire OK, on va remettre les choses comme avant. Obama, on va pas changer l'ambassade ou les choses comme ça. Je trouve que Biden, il est dans une situation un peu délicate.
Judith, c'est aussi ton avis?
Ben, puisqu'il est très bon diplomate, quelque part, espérons qu'il arrive à faire quelque chose vers la paix et apaiser la situation au Moyen-Orient. C'est possible.
Voyons, soyons optimistes, oui. Alors, il y a un sujet qui nous touche à tous, dont on ne parle pas assez, dont on parle dans certains cercles, mais qui est loin d'être partagé mondialement. Et si ce n'est pas un jour partagé mondialement, nous irons à la catastrophe, et peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, c'est le réchauffement climatique. Alors, bien sûr, M. Biden a dit qu'il réintégrerait l'accord de Paris. Mais au-delà de ça, c'est vrai que dans les discours de M. Obama que je lis actuellement, là, je vois qu'il revient souvent sur cette préoccupation du réchauffement climatique. C'est très bien d'en parler. Que va faire M. Biden concrètement sur cette question?
Mais je sais qu'il a déjà… D'ailleurs, je pense que ça fait partie de sa plateforme, de son programme électoral. Il veut organiser un sommet à l'échelle mondiale pour aider les nations qui ont des émissions de carbone très élevées. Donc, des nations pauvres comme l'Inde ou comme les nations africaines. Donc, ils vont requérir des fonds pour aider ces nations à atteindre leur cible en matière de réduction d'émissions.
Déjà, il peut commencer avec les États-Unis.
Ouais. Oui, ce serait bien de commencer chacun chez soi et après on verra pour les autres.
Ah.
Non, mais je crois qu'il va continuer avec l'idée d'Obama. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire la recherche, à innover. Tout le monde sait qu'en fin de compte, que le charbon ou le gaz ou le pétrole, c'est d'ici 20 ans, 25 ans, il faut vraiment faire autre chose. Donc lui, il est pour la science déjà, ce qui n'est pas le cas pour Trump. Et il est, donc les investissements dans la science et la recherche et les innovations, je crois que ça ira dans le bon sens. Mm-hmm.
Je ne sais pas si les dépenses liées au COVID ont modifié ses projets, mais pendant la campagne, il avait annoncé un projet de… C'est une somme faramineuse. Un investissement de 2 000 milliards de dollars pendant son mandat pour accélérer l'emploi des sources d'énergie propres.
Comment vont se passer les relations avec la vice-présidente? Quelle est exactement la place de la vice-présidente dans le fonctionnement de la Maison-Blanche? Est-ce que le vice-président ou la vice-présidente ont un poids réel? Est-ce que c'est un conseiller privilégié? Est-ce que c'est quelqu'un qui va régulièrement dans le bureau ovale pour participer aux discussions, apporter sa voix et voir la faire entendre? Ou alors est-ce que c'est uniquement quelqu'un que l'on tient en réserve au cas où?
Ça dépend des présidents. Alors, c'est intéressant de voir le rôle de Mike Pence. Et en fait, on ne lui a pas donné un rôle. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était présent à la Maison-Blanche, à côté de Trump, tous les jours, sans qu'on lui demande Mais Trump ne lui a pas dit non. Donc, il était là pour essayer de guider, entre guillemets, Trump, ou au moins de comprendre ce qui se passait. Je crois que Kamala Harris, déjà, a fait vraiment partie de l'équipe Biden. Elle assiste à toutes les réunions. Donc, je crois que ça va être vraiment une bonne équipe. Et puis, c'est logique. Si on sait que Biden ne va pas se représenter et que l'idée, l'idéal, ça serait que Kamala Harris continue, il faudrait qu'elle soit vraiment quelqu'un d'important.
Comme Obama et Biden, il y avait ce bromance, on disait, ils étaient deux hommes très différents, mais avec une très bonne relation. Je pense que Biden et Harris laissent penser qu'eux aussi, ils vont créer vraiment une très bonne relation de travail en profitant de leurs différences pour être plus forts.
Et sans se lancer dans le pronostic, parce que c'est toujours un exercice très dangereux, mais ça vous semblerait plausible que Kamala Harris, donc femme, on l'a dit tout à l'heure, noire, elle le sera toujours, soit un jour élue présidente des États-Unis?
On a déjà eu un président noir, et la dernière fois qu'il y a eu une femme candidate à la présidence, elle a recueilli plus de voix que l'homme.
C'est vrai.
Que son adversaire, l'homme. Donc, tous les espoirs sont permis, d'après moi.
Et pour vous, ça vous semblerait à tous les trois une bonne chose?
Oui, bien sûr.
Elle serait contre qui, Mike? Est-ce qu'elle va être contre Pence, par exemple, dans 4 ans?
Je pense que le choix est clair dans ce cas.
Oui.
Et puis, quand on regarde les chefs d'État qui sont femmes dans le monde actuellement, la Nouvelle-Zélande, par exemple, on voit qu'elles font un travail magnifique.
Madame Merkel, sans aller chercher aussi loin,
Madame
Merkel est quand même une référence.
Oui.
Malheureusement, en France, nous n'avons pas de femmes à mettre sur orbite, si je puis dire, pour la présidence, enfin au moins de femmes crédibles. Bien, nous allons arriver au terme, et nous y sommes d'ailleurs au terme de cette émission. Alors moi, je voudrais recommander aux auditeurs le livre que je suis en train de lire, que vous avez tous acheté, qui s'intitule « Une terre promise », qui sont les mémoires, et si j'ai bien compris, le premier tome des mémoires de Barack Obama, publié chez Fayard. Alors, c'est un très gros livre, mais qui se lit avec grande facilité, qui permet d'une part de connaître un homme tout à fait singulier, qu'on n'avait peut-être pas jugé comme tel, de connaître mieux votre pays, ses réactions, voir le système institutionnel. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant, personnellement. C'est vrai que c'est un peu de l'histoire aujourd'hui, c'est vrai que les relations et les défis sont autres, mais quand même, ce n'est pas si vieux. Et personnellement, j'y prends beaucoup de plaisir et j'y ai beaucoup, beaucoup appris sur les États-Unis. Voilà. Bien, écoutez, nous sommes au bout de notre heure et même dépassée, mais peu importe, de conversation. Donc, merci à tous les trois. Merci Judith, merci John, merci Scott.
Merci
bon vent à Joe Biden, bon vent au Parti démocrate. Et puis, peut-être que dans quelques temps, si vous en étiez d'accord, on va regarder comment tout ça démarre, comment ça se met en place, quelles sont les premières réactions, les premiers effets. Et dans quelques temps, eh bien, si vous le voulez bien, nous pourrions refaire un peu de synthèse dans quelques mois, voir un peu comment vous jugez l'action de Biden, voir s'il a des résultats, s'il a des difficultés, etc. J'aurai plaisir à rééchanger avec vous sur ce sujet.
Nous aussi, avec
merci Jacques. À bientôt, j'espère.
Merci à tous les trois. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique et qui sera chargé du montage de l'émission Yannis Boudin, une émission que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site de la station, le podcast, comme tous les autres podcasts. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.